16h-18h sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, ici Mathieu Noël. Bienvenue dans Historiquement vôtre. Deux heures de bonne humeur pour booster votre culture historique et aussi pour préparer Noël. Noël, c'est dans deux semaines et il est temps de songer à ce qu'on va mettre sous le sapin pour combler nos proches de bonheur. Une idée cadeau comme ça en passant, le double CD collector inédit de Stéphane Bern.
Oui, on avait dit qu'on le ferait pas.
Avec toutes ses meilleures interventions buccales depuis le début de la saison, Bern chante Annie Cordy.
Je voudrais bien, mais je peux point.
Bern chante Elton John.
Who can easily rise.
Bern chante La Roche Valmont.
T'as le look coco, t'as le look coco, coco, t'as le look qui te colle à la peau. T'as pas le look coco, t'as pas le look qui te colle à la peau, coco.
En bonus, main sur le cœur pour l'hymne national belge par Stéphane.
Jicomère chérie. À toi
Écoutez, on fait une émission d'histoire.
Bern chante Noël, le cadeau idéal des fêtes qui réglera tous vos problèmes avec vos voisins. Vous n'aurez plus de voisins, ils préféreront vendre. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu. Oui, présenté comme ça, on se dit vivement Noël.
Oh oui.
Pour l'instant, bon, on a une émission à faire,
c'est pas
et
faux.
Pas n'importe laquelle.
C'est vrai.
Aujourd'hui au programme dans Historiquement Vôtre, plus Nobel la vie.
Nobel la vie, j'ai l'astuce.
Trois prix Nobel à l'honneur, c'est la saison. Et c'est même le jour, le 10 décembre, où en 1901, le prix Nobel a été remis pour la première fois, 50 jour pour jour après la mort de celui qui a donné son nom à ce prix, le chimiste Alfred Nobel. Nos prix Nobel du jour ? L'écrivain Jean-Paul Sartre, l'un des rares à avoir refusé le prix Nobel de littérature, vous verrez.
C'est classe.
Mais aussi Gabriel Lippmann, prix Nobel de physique 1908, qui nous a permis de voir la vie en couleur, en tout cas sur les photos. Quant à vous, Mathieu, vous avez décidé de nous parler de prix Nobel plus récents et un peu plus loufoques aussi.
Loufoques, quel mépris. Roger Mieusset et Bourras Benghoudifa ont décroché l'année dernière un Ig Nobel, un anti-Nobel qui vient récompenser les recherches les plus farfelues mais sérieuses. Jugez plutôt, Roger et Bourras ont mesuré et étudié la différence de température entre le testicule droit et le testicule gauche des postiers.
Il n'y a pas écrit la poste, là.
Si, justement, Stéphane, justement.
Et avec nous, comme chaque jour, nos prix Nobel à nous. Notre prix Nobel du soir.
Je me décèle une pointe d'ironie dans ce lancement,
Stéphane. C'est pas vraiment des Nobel, en fait.
C'est ça que je dis. Mais ce sont des
c'est
lumières,
pas des
quand même.
C'est Nobel non plus. Notre prix Nobel d'histoire 1962, elle nous entraîne dans l'intimité des grandes ce monde. Clémentine Portier-Kaltenbach.
Bonjour, messieurs. Bonjour. Bah oui, mais voyez-vous, si le prix Nobel était la garantie de rentrer dans la postérité, ça se saurait. Parce que si je vous disais le mal à Guerleuf, hein, ça ne vous dit rien du tout, là, tout autant que vous êtes. Bah, pourtant, c'est la première femme prix Nobel de littérature, figurez-vous. En 1909, et pour un Nils Holgersson.
Nils Holgersson, voilà.
C'est l'auteur de Nils Holgersson.
Oui,
mais elle a été le premier prix Nobel de littérature, et personne ne le sait.
Ah, si,
donc, c'est pas la peine. Vous connaissez Nils, mais Elma Lagerlöf, ça
vous dit... Nils Elma Lagerlöf,
oui,
bien sûr.
Vous...
Non, mais
je connais très bien celle d'abord parce qu'elle est dans Scandinavie, elle est très connue.
Mmh. Hein, bien sûr.
Et surtout parce que vous avez mal prononcé.
C'est pas la Guerleuf, non ?
La Guerleuf.
Ne faites pas le quiz
c'est ce
avant
que
le
j'ai
quiz.
Dit.
C'est
vous battre. Bon, en tout cas, bref.
Bon, c'est pas de ça dont vous allez nous parler.
Bah non, je vais pas vous parler de ça.
Parlez-nous plutôt de ce dont vous allez nous parler.
Je vais vous parler quand même, si, des grands de ce monde qui devraient jouir de la gloire immortelle et c'est raté. Par exemple, moi, si je vous dis, je vous parle des vedettes du Panthéon, citez-moi quelques-unes. Rousseau, Hugo, Jaurès, Marie Curie. Bon, alors tout cela, on les connaît bien.
Mais
moi, parce que moi, je vous dis, Jean-Baptiste Caprara, Clarette Fleurieux, Nicolas, Marie Songis, ça vous dit quelque chose ?
On les a sortis.
Ils ne sont pas sortis, ceux-là déjà, ils y sont toujours, mais leur nom ne vous dit rien.
Non.
Alors ceux qui en sont sortis, évidemment, vous ne les connaissez pas, et c'est d'eux dont je vais vous parler, les malheureux. Mirabeau, oui.
Mirabeau.
Il en est un, mais il y en a sept.
Il est entré et sorti.
Il y en a sept, citément un deuxième qui est sorti.
Mais laissons-en un peu pour la chronique, Valentine. Je vous laisse le temps de réfléchir parce que là, on est déjà sur du 4 minutes.
Bon, 2 minutes.
David Castello-Lopez est avec nous aujourd'hui. Faites très court, David.
Très court. Les origines de la dynamite. Voilà.
Merci.
Alfred Nobel.
Olivier Pouls est avec nous pour la gastronomie.
Le poulet Gaston Gérard.
Voilà. Qu'est-ce que c'est le poulet Gaston Gérard ?
Un Nobel de cuisine.
Nobel de cuisine. Enfin, nous jouerons à Bern To Be Alive, le clash sanglant de deux personnes qui ont la même passion pour l'histoire, mais pas le même niveau en histoire.
Non.
Clémentine
mais
elle jouera contre Stéphane Bern tout à l'heure. Non, en plus, c'est faux, Stéphane. Vous avez réalisé de belles performances dernièrement. Je tenais à vous saluer.
Merci. Merci, saluez-moi.
Tout de suite, découvrons notre premier prix Nobel du jour. Il l'a refusé, dis donc, Jean-Paul Sartre.
Oui. Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
S'il est vrai que l'existence précède l'essence, dois-je faire le plein de la Maserati ? C'est la question métaphysique que se pose souvent Stéphane Bern lorsqu'il passe devant une station totale. Accointance intellectuelle qui fait de Stéphane la personne idéale pour nous dresser le portrait du philosophe Jean-Paul Sartre.
Je ne sais pas, Mathieu, si vous aimez le petit salé aux lentilles.
J'adore ça.
Eh bien, figurez-vous que ça vous fait un point commun avec Jean-Paul Sartre.
Oh, enfin un.
Le 22 octobre 1964, Sartre est attablé avec sa compagne, Simone de Beauvoir, à l'Oriental, un restaurant de la place d'Enfer Rochereau à Paris. Le couple est donc en train de déguster un petit salé aux lentilles lorsqu'un journaliste de l'AFP, qui s'appelle François de Closet, entre et lui annonce qu'il vient tout juste de recevoir le prix Nobel de littérature. Et là, coup de théâtre, Jean-Paul Sartre lui répond tout net, je le cite, « Ah mais non, je refuse et vous pouvez l'écrire ?» C'est ce qu'on appelle un scoop.
Oui.
Même si j'exagère en parlant de coup de théâtre pour trois raisons. La première, c'est que ce prix n'est pas vraiment une surprise. On savait en tout cas dans le petit monde des arts et des lettres que Sartre avait de bonnes chances de le recevoir. Non seulement son nom revenait depuis des années dans la liste des lauréats potentiels, mais Sartre venait tout juste de renouer avec la littérature au sens strict en publiant les mots, l'histoire de sa propre enfance. La deuxième raison, c'est que l'œuvre de Sartre est déjà riche en 64. Côté roman, il a publié La Nausée et Les Chemins de la Liberté, mais c'est surtout son théâtre qui l'a rendu célèbre. Les Mouches, La Putain Respectueuse, Les Mains Sales, Le Diable et le Bon Dieu, Les Séquestrés d'Altona, pour ne citer que les plus célèbres. La troisième raison, c'est qu'au milieu des années 60, Sartre est bien plus qu'une célébrité. C'est un totem, une légende vivante. Avec Albert Camus, il incarne depuis l'après-guerre et dans le monde entier une figure emblématique, celle de l'écrivain engagé, en l'occurrence à gauche, très à gauche même. Et dans les années 60, les causes ne manquent pas à Sartre et de tous les combats. C'est l'un des premiers à prendre fait et cause contre la ségrégation des Noirs aux États-Unis. Il milite pour la décolonisation, les mouvements ouvriers, la libération des mœurs, il se bat contre la torture, les mauvaises conditions de vie des émigrés. Bref, il est l'incarnation même de l'homme qui traduit ses principes en actes. On l'a même comparé à Voltaire, un rapprochement qui ne vient pas de n'importe qui, mais du général de Gaulle en personne. Eh oui, en 1961, en pleine guerre d'Algérie, Sartre fait partie des 121 intellectuels et artistes qui signent le Manifeste des 121. Un texte qui défend le droit à l'insoumission. Du côté des gaullistes, la signature du philosophe en bas d'un texte pareil, très libertaire et très clairement engagé à gauche, ne passe pas du tout. On parle de haute trahison. Certains ministres du général de Gaulle lui réclament l'arrestation de Jean-Paul Sartre. Mais le grand Charles ne veut pas en entendre parler et répond « On ne met pas Voltaire en prison ». Nous ne sommes pas là pour comparer les mérites de Sartre et de Voltaire, mais une chose est sûre, Voltaire ne peut pas se vanter d'avoir obtenu le prix Nobel de littérature. Forcément, il n'existait pas au XVIIIe siècle. Vous me direz, bon, il est décédé en 1778, alors que l'Académie suédoise ne remet sa fameuse récompense que depuis le 10 décembre 1901. Date anniversaire de la mort 5 ans plus tôt de celui qui a donné son nom au prix. Le chimiste Alfred Nobel. Mais tout de même, voilà Sartre récompensé par la plus haute distinction du monde littéraire.
Mais Stéphane, vous avez commencé le récit en annonçant qu'il l'avait immédiatement refusé, ce prix.
Et c'est vrai Mathieu. Une dépêche de l'AFP l'annonce d'ailleurs immédiatement, même si Sartre est ensuite resté silencieux quelques heures. Ce qui a d'ailleurs valu un petit coup de stress à François de Closet, qui n'avait qu'une peur, que Sartre ne finisse par changer d'avis en le faisant passer pour un guignol et l'AFP avec lui. Mais la décision de Sartre était bien définitive. En fin d'après-midi, il confirme son refus en précisant qu'il réserve ses explications à la presse suédoise. Mais dans la rue, pour Europe 1, Christian Barbier lui arrache quelques mots.
Les raisons pour lesquelles j'ai refusé le prix Nobel sont d'un type personnel d'un côté, c'est que j'ai toujours refusé les distinctions quand on a bien voulu me les offrir ou que j'ai pensé qu'on me les donnerait. Pour les raisons objectives, je considère que il ne doit pas y avoir de prix qui favorise trop l'Ouest, et même si vous voulez l'Est, dans le domaine culturel, où il doit y avoir compétition entre l'Est et l'Ouest. Je pense que les gens doivent arriver les mains nues en défendant chacun leur propre culture. Pour ma part, je suis pour un affrontement de ces cultures. Je trouve que le fait d'arriver prix Nobel dans une discussion de ce genre me met trop à l'Ouest, alors qu'en fait, mes sympathies sont à l'Est.
c'est pas tout à fait neutre de refuser le Nobel. Parce qu'au-delà du prestige, ça veut dire qu'on renonce aussi à la coquette somme qui accompagne le prix. À l'époque, 250 000 couronnes suédoises, l'équivalent de 300 000 euros d'aujourd'hui.
Vous auriez refusé, Stéphane ?
Jamais. Surtout, franchement, on a du mal aujourd'hui à comprendre les raisons de Sartre, l'Est, l'Ouest, enfin voilà.
Bah si, c'est clair, je trouve que c'est même surprenant ce témoignage.
Oui,
bah,
on a vu depuis ce qui s'est passé à l'Est,
si
vous voulez.
Ça tout à fait, mais à l'époque, lui, il défendait ses convictions.
Oui, oui.
Donc du coup, ça a un sens, quelque part. Je ne savais pas que c'était pour ça qu'il avait refusé le Nobel.
Oui. D'ailleurs, dans ses mémoires publiées au début des années 2000, un ancien membre de l'Académie dévoile que Sartre aurait demandé en 1975, plus de 10 ans après, à récupérer l'argent.
Ah, le coquinou.
Voilà.
Hein? Si, voilà. Vous êtes bien content, là. On a mouché Sartre. Vous êtes content.
Non, c'est pas parce qu'il a écrit les mouches. Non, je cherche pas à moucher Sartre. Pas du tout. Au contraire, j'ai beaucoup de respect pour l'homme. Pour l'artiste. La demande a été refusée, explique-t-il, car l'argent du prix avait été placé dans le fonds de la Fondation Nobel. Cette information a été depuis vertement contestée de toutes parts. Mais la vraie question, c'est de savoir pourquoi Jean-Paul Sartre a eu le prix Nobel alors qu'il avait pourtant prévenu qu'il ne le voulait pas.
Il l'avait prévenu publiquement ?
Oui, Jean-Paul Sartre avait absolument tout fait pour éviter cette situation. D'abord, tout le monde savait depuis longtemps que Sartre refusait tous les honneurs, toutes les décorations possibles, à commencer par la Légion d'honneur qu'il avait refusée en 45 au sortir de la guerre. Ensuite, Sartre avait prévenu le jury du Nobel 5 jours avant l'annonce du prix, juste après avoir appris par le Figaro que son nom circulait parmi les favoris. Et il y avait du beau monde, hein. Graham Greene, l'auteur du Troisième Homme, Günter Grass, qui a écrit Le Tambour, ou le poète anglais W.H. Auden, dont on entend quelques vers au moment des funérailles dans le film 4 mariages et 1 enterrement. En lisant Le Figaro du 15 octobre, Sartre apprend donc qu'il est favori. Le lendemain, il se fend d'une lettre à l'Académie Nobel, qui a été retrouvée récemment, en 2014, avec l'ouverture des archives de l'année 64. Vous savez, il y a 50 ans où on ne peut pas les dévoiler. Donc 50 ans après, on a pu le savoir. Dans cette lettre, Sartre dit clairement qu'il ne souhaite pas faire partie des lauréats de ce prix en 64 ou plus tard même. En réalité, lorsque la lettre de Sartre arrive à Stockholm, les dés sont déjà jetés. Le choix du jury du Nobel était déjà fait depuis 1 mois presque déjà. Mais le jury du Nobel a pris le risque de maintenir sa décision, en espérant peut-être qu'il change d'avis.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Plus Nobel la vie, c'est le thème d'Historiquement Vôtre aujourd'hui. Alors comme dans le feuilleton, le prix Nobel a connu quelques rebondissements, comme ce jour de 1964 où Sartre a instantanément refusé le Nobel de littérature. Stéphane, vous nous le disiez, il avait prévenu, mais au fond, pourquoi refuser d'un revers de la main comme ça une récompense aussi prestigieuse ?
C'est vrai que ça n'est pas rien d'être le premier à refuser un prix qui a consacré des géants de la littérature, surtout quand on pense à tous ceux qui ne l'ont jamais reçu. Franz Kafka, James Joyce, Virginia Woolf, André Malraux, George Orwell ou, plus près de nous, Philippe Roth ou Milan Kundera, qui ne l'ont jamais obtenu.
Vous non plus, pourtant vous avez publié beaucoup de livres, mais peut-être ça viendra.
Non, on ne peut pas se comparer à ces géants,
Mathieu.
Non, s'il a refusé, c'est par principe. Sartre a toujours considéré que c'est la cohérence entre ses principes et ses actes qui compte dans une vie. Et sa conviction, c'est qu'accepter de recevoir un prix aussi célèbre et aussi prestigieux que le Nobel, ça reviendrait à le paralyser, à lui faire perdre d'une certaine manière sa liberté. Ou comme il dit, à le transformer en institution, même sous la forme plus honorable, comme c'est le cas. Dans une longue lettre publiée dans la presse suédoise quelques jours après l'annonce, il ajoute ceci après avoir rappelé ses engagements sociaux et politiques. Un écrivain ne doit agir qu'avec les moyens qui sont les siens, c'est-à-dire la parole écrite. Ce n'est pas la même chose si je signe Jean-Paul Sartre ou si je signe Jean-Paul Sartre, prix Nobel.
Oui, vous avez vrai que c'est un point de vue qui se défend, Stéphane.
Alors, ça se défend, oui. Mais figurez-vous que l'Académie n'en a strictement rien à faire, Mathieu. Et oui, la prise de position de Sartre ne change absolument rien parce que le règlement de l'Académie Nobel n'a jamais laissé le choix aux lauréats d'accepter ou pas la récompense. Elle ne leur demande pas leur avis. Jean-Paul Sartre n'a peut-être jamais fait le voyage jusqu'à Stockholm pour le fameux discours des Nobel de littérature. Il n'a jamais touché les 250 000 couronnes qui vont avec le prix, mais son nom figure bel et bien au palmarès des Nobel de l'année 1964. Il suffit d'aller sur le site officiel de l'Académie Nobel pour s'en rendre compte. Et ce n'est pas tout à fait neutre. Pourquoi ? Parce que la France est pour le moment toujours en tête du classement, avec 15 prix Nobel de littérature à son actif. Mais derrière, nous sommes talonnés de près par les États-Unis qui en comptent 13 désormais, depuis la victoire de Louise Gluck en octobre dernier. Autrement dit, l'écart se resserre. On peut remercier l'Académie parce que si elle n'avait écouté que Sartre, nous n'aurions plus qu'un prix Nobel d'avance au lieu de deux sur les États-Unis. Et franchement, moi je vous dis, c'est toujours ça de prix.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Jean-Paul Sartre, nous sommes avec un autre philosophe vivant, celui-là, François Nudelmann, bonjour.
Bonjour.
Bonjour François Nudelmann, vous êtes philosophe, vous venez de publier un tout autre Sartre dans la prestigieuse collection Blanche chez Gallimard. Vous offrez un portrait inattendu de Jean-Paul Sartre, vous écrivez que plusieurs Sartres cohabitent en un seul, hors de soi et avec soi. Pour vous, Sartre était finalement beaucoup plus complexe que ce qu'on présente habituellement.
Oui, absolument. Malheureusement, ce qu'on retient de lui aujourd'hui en France, en tout cas, c'est l'intellectuel engagé qui a parfois soutenu des mauvaises causes, notamment le communisme en URSS. Et d'ailleurs, quand il refuse le prix Nobel, vous l'avez rappelé, en 1964, il affirme sa solidarité avec des écrivains soviétiques, Cholokov, bon, qui selon lui n'ont pas été honorés par le jury. Mais ce Sartre dogmatique cache bien d'autres Sartres. N'oublions pas d'ailleurs qu'au moment où il refuse le Nobel, il entretient une liaison passionnée avec sa traductrice russe. Et bien qu'il ait rompu avec le parti communiste depuis l'invasion de la Hongrie par les soviétiques en 1956, il revient régulièrement en URSS pour retrouver Lena Zonina et il doit composer avec les apparatchiks pour qu'elle obtienne des visas et qu'elle le rejoigne en France de temps en temps. Alors ça peut sembler une anecdote, effectivement, mais en fait ça révèle beaucoup plus que la vie privée du philosophe. Sartre était continuellement clivé, tiraillé entre ses devoirs politiques et ses désirs. Et comme il l'écrit à d'autres compagnes, il y a des correspondances encore inédites qui sont passionnantes, il y a en lui à la fois un militant et un troubadour.
Mais alors François Nudelmann, on connaît Sartre le penseur, on l'a étudié pour certains d'entre nous, mais le Sartre intime, qui était l'homme en fait? Il vous dit qu'il y a différents Sartres, il y avait un Sartre plus léger, plus rêveur, plus rieur?
Oui, absolument. Je crois qu'il faut en finir avec ce cliché de Sartre qui harangue les ouvriers à la sortie des usines Billancourt. Bon, c'est vrai qu'il a été cet intellectuel qui a cru à la Révolution, mais c'est aussi, je le rappelle, un immense écrivain, un dramaturge, un romancier, un scénariste, un critique d'art, un philosophe, qui continue à inspirer des nouvelles générations dans le monde entier. Alors, oui, ça, c'est vrai que c'est le but de mon livre, de casser le cliché et de montrer ces facettes inconnues du grand public, c'est-à-dire un Sartre romantique, un Sartre blagueur, un Sartre mélancolique, consommateur de drogue, un touriste sentimental. Bon, c'est une grande partie des archives qui ont été laissées par sa fille Arlette Elkaïm permettent aujourd'hui d'éclairer ce Sartre, oui, rêveur, rieur, léger. Il faut le redécouvrir.
Alors, on va continuer à parler de nos prix Nobel et de Jean-Paul Sartre en particulier avec notre invité François Nudelmann sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Plus Nobel la vie, on parle cet après-midi des Nobel français, surtout ceux qu'on connaît moins ou ceux qu'on a oubliés, voire ceux qui l'ont refusé. C'est le cas de Jean-Paul Sartre, on en parle avec notre invité François Nudelmann, vous êtes philosophe aussi et vous avez publié, je le rappelle, un ouvrage, un tout autre Sartre. Alors on parlait des différents Sartres, j'aimerais maintenant qu'on s'interroge sur le fait pourquoi ce refus du Nobel. Est-ce que c'est une forme de rigidité ou d'extrême fidélité à ses engagements, comme on l'a entendu dans l'extrait sonore d'Europe 1 tout à l'heure? C'est une posture plutôt qu'autre chose. Comment vous l'interprétez?
Bon, vous l'avez un petit peu suggéré déjà, hein, Sartre refusait tous les honneurs, par esprit démocratique. Vous vous souvenez peut-être de la phrase de la fin des mots sur l'autobiographie. Il dit que, pour se définir, il est tout un homme, fait de tous les hommes, et qu'il les vaut tous. Et que vaut n'importe qui. Alors, dans sa vie, il n'a accepté d'être honoré que deux fois. En avril 40, il est encore un tout jeune écrivain, et il reçoit le prix populiste. Et puis en 1976, quand il accepte d'être docteur honoris causa de l'université hébraïque de Jérusalem. Alors, vous l'avez rappelé, il avait écrit au jury Nobel qu'il ne voulait pas recevoir ce prix. Et d'ailleurs, nous venons d'éditer là, le sixième volume des Situations, c'est le volume qui recueille ses articles, chez Gallimard, et on a ajouté ce texte inédit, sa lettre à l'Académie suédoise, postérieure à l'attribution du prix. Et il y explique qu'en effet, il ne veut pas être affilié à une institution, ça signifierait pour lui être embourgeoisé. N'oublions pas que Sartre n'était pas un universitaire, il n'avait pas de poste, et se sentait libre de toute obligation.
Mais en lui remettant ce prix, il y a quand même une forme de consensus autour de lui et de ses écrits. Or, Sartre n'a jamais fait l'unanimité. Vous l'écrivez d'ailleurs. Adulé par les uns qui louent son dévouement à la cause de tous les damnés de la terre, il est haï par les autres qui lui reprochent ses compromissions avec le totalitarisme et le terrorisme. Ça lui plaisait finalement d'être perçu différemment selon les gens. Il aimait bien ce aujourd'hui on dirait clivant, aimé par les uns et détesté par les autres.
Oui, clivant, oui, vous avez raison. Mais il faut se rappeler aussi comme il a été haï. C'est incroyable. Même au moment de sa mort, alors que 50 000 personnes suivent son enterrement au cimetière Montparnasse, dans la presse, certains le décrivaient encore en corrupteur de la jeunesse, hein, un peu comme Socrate. Mais Sartre ne craignait pas les attaques. Lui-même pouvait être agressif, hein, il était violent dans ses textes. Et on peut dire que rarement un intellectuel a suscité des sentiments aussi opposés, je crois encore aujourd'hui. Rappelons aussi que les militants de l'OS, par exemple, ont quand même crié sur les Champs-Élysées, fusillé Sartre et son appartement a été plastiqué. Donc effectivement, c'est pas un homme de consensus, c'est pas un homme de compromis, il est radical, il est toujours du côté de la révolte.
Oui, mais le prix Nobel aurait pu lui donner une tribune formidable. C'est ça qui est au fond...
Oui, mais c'est un label aussi, Stéphane, il aurait été obligé sur les livres mettre Nobel de...
Non, on n'est pas obligé d'écrire... C'est comme quand vous êtes à l'Académie française, on n'est pas obligé d'écrire tout le temps de l'Académie française. C'est que vous le voulez bien. Il aurait pu aller à Stockholm faire un discours que le monde entier aurait repris et défendre ses idées. Ça lui donnait une tribune incroyable. Bon, voilà, c'est difficile après de refaire l'histoire.
Ça reste le mauvais garçon de la bourgeoisie. Jusqu'au bout, il y a un petit côté adolescent, anarchiste. Il est très heureux de se payer le prix Nobel d'une certaine manière.
Oui, voilà.
Même si, bon, voilà, il reconnaît qu'il est respectueux dans sa lettre est très respectueuse. Mais au fond, bon, c'est un pied de nez.
Mais vous montrez une personnalité très complexe, évidemment, et c'est ce qui est intéressant. Un homme qui ne s'aimait pas et qui s'empêche d'être heureux car le bonheur est coupable. Au fond, rien ne le rendait heureux. Peut-être une sonate de Chopin, mais...
Oui, c'est un peu comme si le bonheur lui paraissait indu, coupable, qu'il fallait le payer. Bon, ça vient peut-être de son éducation protestante, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il s'interdisait la frivolité, la légèreté, qui était pourtant sa tendance, on le voit dans ses écrits de jeunesse. Et donc c'est Camus qui lui dit « Le bonheur, ça existe, ça compte, pourquoi le refuser ?» J'aime bien quand Camus dit « En l'acceptant, on n'aggrave pas le malheur des autres, et même ça peut aider à lutter pour eux. » Alors Sartre, effectivement, trouve le bonheur un peu en cachette dans ses vies parallèles. C'est la contemplation des paysages, c'est la musique. Mais c'est vrai, il a du mal à s'abandonner. Même le mot d'abandon lui fait horreur. Et bon, il faut beaucoup d'amour et d'alcool avec lui pour qu'il l'accepte.
Et de la mescaline.
La mescaline, absolument.
qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui pour quelqu'un qui n'aurait rien lu de Sartre? Quel est l'ouvrage de Sartre qui permet une introduction à sa pensée?
Moi, je crois qu'il faut lire le premier, c'est-à-dire La Nausée, surtout aujourd'hui, parce qu'il est d'une formidable actualité, ce livre, en ces temps de Covid, où on est confronté à la solitude, à l'absurde, à la finitude, à la mort. Je crois que personne n'a mieux décrit que Sartre l'existence brute.
Ben merci. Merci François Nudelman. Je rappelle le titre de votre essai biographique qui vient de paraître, Un tout autre Sartre, chez Gallimard. Merci d'avoir été avec nous.
Merci.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Elle aussi nous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle espère toujours se voir remettre un jour le prix Nobel des chroniqueuses d'histoire à la radio. Enfin, je suis pas sûr que ça existe. Elle fait tout pour. La preuve cet après-midi encore. Clémentine Portier-Kaltenbach.
Ah, je préfère être enterrée au Panthéon parce que j'habite pas loin. Donc, ce serait pratique pour ma famille, pour venir se recueillir sur mes cendres. Alors, Stéphane, oui, vous le citiez tout à l'heure, le premier entré au Panthéon. C'est ce qui est beau dans cette histoire, c'est que c'est aussi le premier sorti. Et moi, c'est ce qui me plaît avant tout. C'est-à-dire, quand la roche tarpéienne est proche du Capitole, on croit qu'on est là, on frôle la gloire et puis badaboum. Badaboum. Mais alors ça, c'est peut-être connu. Ce qu'il est moins, c'est que c'est quand même pour lui, pour Mirabeau, que l'Assemblée constituante, absolument bouleversée et émue par ce grand mort, a décidé de transformer l'ancienne église Sainte-Geneviève en panthéon pour les grands hommes que la nation désirait honorer. Donc c'est pour lui qu'on va, on va transformer ça. On bouge toutes les fenêtres. Il y avait une cinquantaine de fenêtres. On bouge tout. On en fait le panthéon que nous connaissons aujourd'hui. Mais donc, ainsi que je le disais à l'instant, il est le premier à rentrer, hein, mais le 21 septembre 1794, il est donc au Panthéon depuis 3 ans, on se rend compte qu'il a touché de l'argent pour essayer de faire évader Marie-Antoinette, et donc là, on va le chercher manu militari, par les pieds, on prend sa dépouille, on le sort du Panthéon, et on va l'enterrer près du boulevard Saint-Marcel, là où il y a le marché aux chevaux à l'époque, dans un petit cimetière qui s'appelle le cimetière Sainte-Catherine, qui n'existe plus. Donc, c'est pas à peine de chercher ses cendres, Mirabeau exit, il a disparu, la chèvre de se dissoudre dans la terre du boulevard Saint-Marcel à Paris 5e. Deuxième expulsé du Panthéon, le Pelletier de Saint-Fargeau, celui-là, est-ce que vous le connaissiez? C'est un aristocrate.
L'ancêtre de Jean d'Ormesson.
Exactement.
C'était le château de Dormesson.
C'est lui. Et il avait voté la mort du roi. Ouais. Donc, si vous voulez, pour un aristocrate, c'était plutôt mal porté. Et donc, il y a un valet de chambre de Louis XVI, Philippe-Nicolas de Paris, qui vient assassiner le Pelletier de Saint-Fargeau dans un bistrot au Palais Royal en disant, tiens, voilà, pour toi, t'as voulu tuer le roi, tant pis pour toi. Bon, alors pouf, il part lui aussi au Panthéon. Mais quelques années plus tard, sa famille, quand même, se dit, on aimerait bien le récupérer à Saint-Fargeau. Donc, 2 ans après, la famille va le récupérer et on l'inhume au château de Saint-Fargeau. Donc, voyez, ça là, s'en fait déjà 2 qui rentrent, qui sortent. Il y en a un qui est connu aussi dans les sortants, Marat.
Ah oui.
Marat, il tient le record du passage le plus rapide de l'histoire, du pinacle à l'égout.
Vous voulez dire qu'il a passé plus de temps dans sa baignoire qu'au Panthéon?
Eh ben oui, parce qu'au Panthéon, il y a passé 5 mois, figurez-vous. Ah oui. Comme d'habitude, c'était David, le peintre, qui organisait toutes ces solennités révolutionnaires. Au moment de l'entrée de Marat au Panthéon, il a dit « Que le vice, que l'imposture fuit du Panthéon, le peuple y appelle celui qui ne se trompe pas jamais. » Tu parles, il y a passé 5 mois, et donc on l'a sorti aussi. Alors donc, tout cela, vous voyez, c'est les connus, ça en fait déjà 3. Mais il y a les moins connus, par exemple, le général Nicolas Beaurepaire. Ça, c'est un héros.
Rue Beaurepaire.
Ah bah, vous connaissez la rue, mais lui... C'est un général qui s'est suicidé à Verdun plutôt que de se rendre quand il était assiégé dans Verdun par les Prussiens. On est là aussi sous la Révolution, 3 septembre 1792. Ça a de la gueule quand même, un beau général qui préfère à la romaine se suicider plutôt que de se rendre. Bon, bah alors lui, ses soldats l'ont enterré à Sainte-Menehould et puis du coup, il est resté dans son trou à Sainte-Menehould, donc il devait rentrer au Panthéon, il n'y a jamais été. Bon, c'est un non-entrant, mais enfin, il était quand même, écoutez, déjà être prêt, s'il est prévu d'y rentrer, ça a déjà...
Ça sent déjà pas mal. Avec Stéphane,
de l'allure quand même. Oui. Nous n'en sommes pas là, ni vous ni moi. Alors, en voilà un autre. Auguste Henri Marie Picot de Dampierre, là, il est rentré au Panthéon, lui, en même temps que Mirabeau, à peu près. Puis son corps en est retiré aussi parce que on pensait qu'il avait trahi la Révolution. Bon, alors lui, on sait même pas où il est passé. Vous voyez, lui, il est rentré au Panthéon.
Et on sait même pas où
est-il maintenant. Mystère et boule de gomme, c'était bien la peine quand même. Hein. Et alors, enfin... La Convention a voté le transfert au Panthéon pour les restes de 2 petits garçons. Le premier d'entre eux, Joseph Barra, né à Palaiseau. Il s'était engagé à 12 ans dans les troupes de patriotes envoyées en Vendée pour réprimer la chouannerie. Il est pris dans une embuscade et là, il aurait refusé de crier « Vive le roi !» et se serait exclamé « Vive la République !» en embrassant sa cocarde tricolore avant d'être mis à mort. Là, ça, la Révolution aime bien ce genre de héros-là. Puis Agricole Viala, lui, il avait 13 ans, c'est un petit gamin d'Avignon. Et en 1790, il y a une échauffourée au bord de la Durance. Et puis ses compagnons d'armes sont en train de fuir sur une barque, ils se ruent sur une hache, ils coupent la corde et il est criblé de balles. Mais il aurait tout de même eu le temps d'exprimer sa satisfaction de mourir pour la liberté. Alors c'est de là devait rentrer au Panthéon. La Révolution adorait ce genre de héros.
Et pourquoi ils sont pas rentrés?
Eh ben parce que figurez-vous que c'était prévu à une période un peu compliquée. Alors David, toujours David, il leur concocte une cérémonie à sa façon, mais adaptée à leur jeune âge. Chanteur déplorant les ravages du fanatisme et criant de douleur, danseur, soldat blessé pour la patrie, fleurs, poèmes. Hein, le spectacle, ça promettait d'être grandiose, mais alors mauvaise pioche parce que leur transfert était programmé le 10 Thermidor. Oui. Les deux gamins. Bon, alors là, donc voilà. À l'heure où ils devaient rentrer au Panthéon, Robespierre était en train de monter à l'échafaud. Voilà. Et donc, ces urnes, elles ont disparu. L'historien Gosselin Lenôtre les a cherchées absolument partout. Donc, on pense que soit
elles sont chez vous.
Enterrées aux Tuileries. Oui, soit elles sont sur le napperon, sur une télé de quelques particuliers. Oui. Et en tout cas, la nation a bel et bien été privée.
Il y en a un autre qu'on a sorti de son tombeau pour l'emmener au Panthéon. Il n'a jamais pu arriver jusqu'au Panthéon. Il est dans le caveau des gouverneurs des Invalides. C'est Rouget de Lille, à qui on doit la Marseillaise.
Oui. Il était pressenti pour le Panthéon.
Mais plus que pressenti, on l'avait sorti de son tombeau pendant la Première Guerre mondiale.
A choisi le roi, il est mort, je crois. C'est ça.
Et il y est toujours pas. Moi, je milite pour qu'on le fasse entrer.
Ah, mais très bonne idée. Bah, créons une association.
Je pense qu'effectivement, c'est le combat du moment.
Je viens de votre trésorière.
Avec vous. Merci Clémentine, vous restez avec nous. Pas de doute, ces deux-là aiment la joute. Chaque après-midi, le choc de leurs connaissances fait le miel de mon sadisme et du vôtre, je l'espère, le quiz arrive.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
À écouter Stéphane, qui ne supporte plus son insolente domination dans le quiz, la vie de Clémentine Portier-Kaltenbach se résumerait à trois activités principales.
Sadisme, voyeurisme, masturbation.
Vision tronquée, s'il en est, car Clémentine adore aussi la masturbation intellectuelle. Et on appelle ça le quiz. Jouons à Perm to be alive. Hier, le quiz était un petit peu, comment dirais-je, orienté. Il était pro-Kaltenbach, ce quiz, on peut le dire. Stéphane, vous avez été victime d'une machination. Oui. Aujourd'hui, je vous promets un quiz plus équilibré dans les questions. Première question pour vous, Stéphane, nous allons voir ça tout de suite. De la même façon qu'on a pu acheter aux enchères une guitare ayant appartenu à Jimi Hendrix ou une Porsche ayant appartenu à Johnny, en 1829 a été vendu un cheval qui porta Napoléon le jour de Waterloo. Vrai ou faux ?
Je pense que c'est vrai. Alors, vous voulez dire un cheval vivant ou un cheval empaillé ?
Un cheval tout court, Stéphane.
C'était en 1829 ?
C'était en 1829.
29, oui. Il y a eu des chevaux empaillés qui ont été mis dans les enchères, oui. C'est une certitude.
Il
ne
devait pas être très en forme, hein, parce que Waterloo, c'est 1815.
Oui, mais il était peut-être même moins qu'en forme, il était peut-être empaillé.
Il avait 15 ans de plus.
Il était empaillé, bien sûr.
Oui, bien sûr, c'est tout à fait possible.
Vendu aux enchères.
Vous avez...
Ça commence bien, Stéphane. Le raisonnement est bon, la réponse est bonne. C'est vrai, c'était un pur sang de race illustre élevé dans les écuries impériales. Napoléon l'a abandonné sur le champ de bataille de Waterloo. 14 ans plus tard, il est en vente. C'est le journal Le Compilateur qui le raconte. Mais je ne sais pas si le cheval a trouvé
preneur.
Il ne
l'a pas abandonné. Il est parti en calèche. Il n'est pas parti à cheval.
Ah, je vous rappelle qu'à Waterloo, il avait des hémorroïdes. Il pouvait être.
Oh, ça suffit.
C'est vrai.
Vous salissez toujours.
Il ne pouvait pas monter à cheval.
Ah, oui.
Le mythe de l'empereur. Question numéro 2 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. De qui est ce distique? Un distique, c'est deux vers, vous le savez. Mon dîner me tracasse et même me harcèle. J'ai mangé du cheval et je pense à la selle. Victor Hugo, Lamartine ou Frédéric Dard?
Moi, je dirais plutôt Lamartine ou Hugo. Parce que la grande offensive hypophagique et le moment auquel on se met vraiment à manger du cheval, il me semble que c'est 1863 avec le fameux dîner au Grand Hôtel, vous savez, où on est accompagné de cheval blanc, de gâteaux à la graisse de cheval et de rôti de cheval. Donc ceux qui sont contemporains de cet événement, c'est plutôt Lamartine et Victor Hugo. Est-ce que Lamartine avait suffisamment d'humour pour dire « et je pense à la selle », je vois plus Victor Hugo capable d'être de commettre des âneries parce qu'il était grandiose le reste du temps. Donc je vais répondre Victor Hugo.
Vous avez gagné.
J'aime ça. J'aime quand vous prenez le temps de la réflexion et que vous aboutissez comme ça, vous éliminez les réponses une à une pour arriver à la bonne. Effectivement, Victor Hugo avait le talent mais aussi l'humour pour écrire des petites choses comme ça, un peu lestes, n'est-ce pas ? À sa mort, on a retrouvé dans ses tiroirs de nombreux petits poèmes de cet acabit complètement inédits, dont ce distique. C'était donc Victor Hugo. Question numéro 3 pour vous, Stéphane Bern. Attention, cette question porte sur Clémentine Portier-Kaltenbach elle-même.
Ah bah voilà autre chose.
Et Stéphane, on en a parlé dans l'émission, on va voir si vous avez bien écouté. Adolescente, Clémentine a eu une amourette avec trois propositions.
Oh non, mais je vous.
Un descendant du révolutionnaire Gracchus Babeuf, préfigurateur du communisme et de l'anarchisme.
Oh non, mais c'est. Non, mais c'est
le petit-fils d'Albert Schweitzer, le célèbre médecin de Lambaréné au Gabon. Prix Nobel de la paix. Ou le dessinateur d'un robot emblématique de la saga Star Wars.
Je crois que c'est le A ou B. Je crois que c'est le petit-fils d'Albert Schweitzer.
Le petit-fils d'Albert Schweitzer.
Non, alors c'est Gracchus Babeuf.
Quelle est la réponse, Stéphane ?
Je ne sais plus. Aidez-moi, Clémentine.
Elle a une vie tellement débridée qu'on ne sait plus. On a parlé déjà du destin de Clémentine, de ses origines.
La première, alors.
Vous avez perdu.
c'était non pas le robot emblématique lui-même, elle n'a pas couché avec R2-D2.
Non, j'ai pas couché avec un robot.
Le dessinateur d'un robot emblématique de la saga Star Wars. Et voilà, voilà l'amour, l'amourette de jeunesse de Clémentine Portier-Caltabac, le dessinateur de R2-D2. Et ça, c'est l'histoire.
Écoutez, il n'y a que vous pour vous intéresser
à la vie de Clémentine.
Oui, parce que moi, je l'avais complètement oublié personnellement.
Oh, le pauvre. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Qui a dit « Les vacances sont faites pour avoir des relations sexuelles plus fréquentes » Stéphane Bern, Stéphane de Groot ou Stéphane Collaro ? Question sur les Stéphane.
Les vacances sont faites pour avoir des relations... J'imagine pas Stéphane tenir ce genre de propos. Je verrais bien plutôt de Groot, parce que Stéphane Collaro, je vois... Stéphane Collaro, c'est le fils de...
Non, c'est Stéphane Collaro lui-même,
Stéphane...
en fait.
Oui, ah,
c'est
lui. Stéphane Collaro, il est assez, grivois.
Il
aurait pu dire
Collaro
ça aussi.
Dans cette phrase, oui.
Mais à la fois de Groot aussi, il est très subtil. Moi, je dirais peut-être plutôt Stéphane Collaro. Je vois ni Stéphane Bern, ni Stéphane de Groot, en fait, dire ça. C'est un peu vulgaire.
Vous avez...
Et oui, mais en 2007, Stéphane était beaucoup moins élégant qu'aujourd'hui. Et c'est une phrase, effectivement, une citation d'un article dans
Stéphane.
Voici, Stéphane, vous étiez un peu laissé aller, peut-être au gré du spritz, je ne sais pas, vous aviez révélé la vraie couleur de vos vacances.
La digestion de spritz.
Nous sommes dans une phase d'égalité. Voici donc la question de rapidité qui va vous départager. Le premier qui choisit la réponse empêche l'autre de la prendre.
Passons
à autre
chose.
Il faut être vif. En 1915, aux États-Unis, pour la première fois à la Maison-Blanche, on projette un film dans les appartements privés du président. Quel est le sujet de ce film ? Trois propositions. C'est un documentaire animalier sur les éléphants d'Afrique. Un court-métrage avec Charlie Chaplin. Ou un film à la gloire du Ku Klux Klan.
1915,
Charlie Chaplin.
Je crois que c'est Clémentine qui a pris la main, comme on dit dans Question pour un champion. C'est donc une mauvaise réponse, et donc c'est Stéphane qui empoche le point. C'était un film à la gloire du Ku Klux Klan, réalisé par Thomas Dixon. C'est un copain lycée du président Woodrow Wilson qui se laisse convaincre de le projeter. Le film évoque la reconstruction du Sud après la guerre de sécession. Les Noirs sont présentés comme des prédateurs sexuels. Quand la projection du film a été rendue publique, le président dira que ce n'était peut-être pas une très bonne idée.
Ah, très intéressant.
Effectivement, c'est une notion qui vous permet de perdre ce quiz et Stéphane de l'emporter, mais alors vraiment sur le fil.
Stéphane, enfin, maintenant que je sais ce que vous disiez dans Voici il y a 10 ans sur votre vie sexuelle l'été, je
tombe
de haut.
Il faut toujours faire relire ces interviews.
Je suis prête à perdre le quiz contre un individu pareil.
Surtout les interviews qu'on donne l'été.
h 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous êtes au cœur d'Historiquement Vôtre, l'émission qui chaque après-midi vous raconte l'histoire sans se la raconter. Comme d'habitude, on part à la rencontre de trois personnages historiques très différents. Ils n'ont pas vécu à la même époque, mais ils ont tous un point commun, Mathieu.
Oui, Stéphane, aujourd'hui, celui d'avoir décroché le prix Nobel. Et Stéphane, un prix Nobel, sans vous faire insulte, c'est quand même autre chose qu'un set d'or. Il en faut dans le ciboulot, comme on dit. Et il faut aussi passer de longues heures à expérimenter. Et en laboratoire, hein, pas dans les pipes chaudes de Pigalle.
Qu'est-ce que c'est ? Une forme émerge du trou ?
Je vous expliquerai, Stéphane, hors micro. On a parlé de Jean-Paul Sartre, prix Nobel de littérature. Quel sera notre deuxième Nobel du jour ?
Gabriel Lippmann, l'inventeur du procédé qui a permis d'aboutir à la photographie couleur.
Pour permettre à Castello Lopez de prendre des dick pics avec son Polaroid, j'ai envie de dire tout ça pour ça. Heureusement, je relèverai le niveau en vous parlant de deux chercheurs français lauréats 2019 des Ig Nobel, une sorte de Nobel alternative, dirons-nous, pour leur très belle recherche sur les différences de température entre les testicules gauche et droit des postiers.
Vous êtes sûr que vous avez bien lu ?
Oui, je vais vérifier quand même, j'ai un doute.
Ah, sans oublier nos chroniqueurs, qui sont aussi de la graine de Nobel. Hein. David Castello-Lopez, vous nous racontez les origines d'un objet, pas vraiment de notre quotidien, mais un objet dont il est préférable de se tenir assez loin.
Tout à fait, c'est la dynamite, parce que le prix Nobel, il vient d'Alfred Nobel, et Alfred Nobel, il a inventé la dynamite. Donc on va voir comment et pourquoi.
Oui, il fallait bien après qu'il se fasse pardonner. Alors, on va parler de poulet avec vous, Olivier
Pouls. Oui, avec encore un bel exemple de sérendipité.
J'adore ce mot.
C'est hasard. Ouais.
C'est les hasards de la création.
Grosse bévue qui se transforme en succès, en fait. Une gaffe culinaire qui fait une recette. Pas comme quand vous aviez fait tomber le pot de Nutella dans le cassoulet. Ça n'a pas fait de recette, ça.
Non, ça n'a pas marché. En revanche, un jour, j'ai fait tomber un pot de Nutella dans les pâtes. Et pour peu qu'on les ait pas salés avant, ça fait un dessert tout à fait acceptable.
Bah oui, comme une tarte.
Exactement.
Sérendipité, de sérendipité, on va passer à c'est pas ma tasse de thé.
C'est pas ma tasse de thé. Quelle drôle d'expression, Stéphane, nous en révélerait l'origine tout à l'heure, dans le mot de la fin.
Exactement.
Et tout de suite, zoom sur notre deuxième Nobel du jour. C'est grâce à lui qu'on a de beaux souvenirs en couleur. Stéphane Bern nous raconte le destin de Gabriel Lippmann, l'inventeur de la photographie couleur.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Alors, après le Nobel de littérature, on va rentrer un peu plus dans les sciences dures, là, en l'occurrence, la physique. Et quand on pense français Nobel de physique, tout de suite, on pense Marie Curie. Mais pas lui. Stéphane, parce que vous ne faites rien comme les autres, vous avez choisi de nous raconter le destin de Gabriel Lippmann.
C'est vrai, on connaît tous Marie Curie, prix Nobel 1903 avec son mari Pierre. Si on se souvient d'elle, c'est d'abord parce qu'elle a été la première femme à obtenir un Nobel, mais surtout parce qu'elle en a obtenu deux. Un de physique donc, et un de chimie 8 ans plus tard, en 1911. En revanche, je vous l'accorde, Mathieu, il y a un nom qu'on connaît mal, c'est celui de Gabriel Lippmann, prix Nobel de physique en 1908. Et pourtant, dans la longue histoire de la photographie qu'on utilise tous quotidiennement aujourd'hui, Lippmann est un nom qui compte. C'est à lui que l'on doit la méthode qui lui a valu le Nobel, une technique qui reste encore aujourd'hui l'une des plus performantes pour reproduire les couleurs. Même si ce n'est pas grâce à elle que vous pouvez publier de belles photos de fromage sur Instagram, Mathieu, comme ce Mont-d'Or manifestement dégusté il y a quelques jours.
Il était fameux, oui, je vous confirme.
Oui, et qui m'a ouvert l'appétit. Mais revenons à Gabriel Lippmann. Il est né du côté du Luxembourg en 1845 d'un couple français installé là-bas, dans mon cher Grand-Duché. Son parcours est assez classique pour un chercheur. Gabriel est un jeune homme doué qui passe par le lycée Napoléon, aujourd'hui lycée Henri IV, puis par l'école normale supérieure avant de partir étudier quelques années à l'étranger, en l'occurrence en Allemagne, puis de revenir en France pour y soutenir sa thèse en 1875. Un jeune savant plein d'avenir donc, mais avec un petit grain, un petit côté rebelle, un peu comme vous. Gabriel Lippmann a raté l'agrégation parce qu'il refuse de perdre du temps à travailler dans des domaines qui ne l'intéressent pas. Et ce qui l'intéresse, lui, c'est l'électricité d'une part et la photo d'autre part. Au milieu des années 1880, lorsque Lippmann entreprend des recherches dans ce domaine, la photographie existe depuis un bon moment. Les premiers travaux de Nicéphore Niépce et de Louis Daguerre, entre autres, datent déjà d'une soixantaine d'années. Des progrès fantastiques ont été réalisés au cours du temps, mais on ne maîtrise pas encore la photographie en couleur. Les chercheurs ont bien commencé à développer quelques techniques, mais tout ça ne marche pas vraiment. Les couleurs sont pâles, pas très fidèles. Il faut des heures et des heures de pause. Et surtout, les images pâlissent très vite. Lippmann se penche sur le problème et petit à petit, il finit par mettre au point une technique dite interférentielle. Pour résumer simplement, voilà comment ça fonctionne. Sur sa plaque photographique, Lippmann pose deux couches. La première est une émulsion argentique. La deuxième est à base de mercure. Cela provoque une interférence entre les rayons qui arrivent sur la plaque et ceux qui sont réfléchis, renvoyés. C'est cette onde stationnaire qui permet de fixer les couleurs fidèlement et pour de bon cette fois. Les images donc se conservent dans le temps. En 1893, Lippmann fait la démonstration de son procédé devant l'Académie de photographie créée par les frères Lumière. Il publie ses travaux l'année suivante et en 1908, enfin, jackpot, le prix Nobel. Alors, avec une découverte aussi majeure, pourquoi le nom de Lippmann n'est-il pas aussi célèbre que celui de Nicéphore Niépce ou des frères Lumière? Eh bien, pour deux raisons, mon cher Mathieu. D'abord, ce n'est pas sa technique de reproduction directe des couleurs qui s'est imposée. Jusqu'à l'invention du numérique, la photographie argentique repose sur un autre procédé indirect, la synthèse soustractive, qui joue sur la combinaison de trois couleurs de base, le bleu, le rouge et le vert. Mais l'autre raison qui explique le relatif anonymat de Gabriel Lippmann, c'est qu'on a longtemps suspecté qu'il avait peut-être un peu volé l'idée à un autre chercheur, Edmond Becquerel, membre éminent d'une longue lignée de scientifiques. Et effectivement, Edmond Becquerel avait bel et bien découvert un procédé qui permettait de reproduire la couleur en 1848, bien des années avant Lippmann. Mais je vous l'ai dit un peu plus tôt, si Becquerel avait bel et bien réussi à produire l'une des premières photographies en couleur de l'histoire, il n'a jamais, en revanche, réussi à la fixer. Ces images étaient éphémères et la seule façon de les conserver consistait à les garder dans l'obscurité totale. Vous conviendrez que c'est pas tellement le but de la photographie.
Effectivement. Hein.
Le débat est toujours ouvert pour savoir ce qu'avait exactement découvert Becquerel, mais Lippmann ne lui a pas volé son prix Nobel. D'abord parce que il a été beaucoup plus loin et ensuite parce que Edmond Becquerel est mort en 1891, soit 10 ans avant le premier prix Nobel de l'histoire. C'est son fils Henri qui deviendra le Nobel de la famille en physique pour sa découverte de la radioactivité spontanée en 1903. Oui, l'année où prix a été partagé en deux, entre lui et puis des certains Pierre et Marie Curie. Vous voyez, on revient toujours à eux.
Hein,
en revanche, la controverse rappelle une vérité. Même si on associe souvent un nom à une invention, par exemple la photo et Nicéphore Niépce, le chemin de la science et des techniques est souvent plus lent et plus flou. Ni Becquerel, ni Lippmann n'ont inventé la photographie en couleur. Ils ont inventé une manière de reproduire les couleurs en photo, ce qui est, vous l'avouerez, très différent. Gabriel Lippmann ne s'est d'ailleurs pas arrêté dans ses travaux après le Nobel. Il a continué de développer un autre procédé photographique capable cette fois de donner l'illusion du relief. Les limites techniques de son époque font qu'il en est resté à la théorie, mais Lippmann a travaillé jusqu'à la fin de sa vie, en 1921. Une mort un peu curieuse d'ailleurs, lieu de décès annoncé, océan Atlantique. 3 ans après la fin d'une guerre où beaucoup de Français sont morts pour la France, Lippmann, lui, est mort sur le France, à bord du célèbre paquebot qui le ramenait des États-Unis où il avait donné une série de conférences.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Gabriel Lippmann, nous sommes avec la seule auteure au monde, à ma connaissance, qui a fait de lui le héros de son roman. Bonjour Isabelle Bergoin.
Bonjour.
Alors ne bougez pas, on parle de Gabriel Lippmann avec vous dans un tout petit instant.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre et nos prix Nobel, pas comme les autres, continuent. On parle de Gabriel Lippmann, prix Nobel de physique en 1908 pour ses travaux sur le passage de la photographie en couleur avec notre invitée Isabelle Bergoin.
Bonjour Isabelle Bergoin, vous êtes physicienne et ingénieure. Vous avez publié Le Dagobert Optique, un roman inspiré de l'histoire de Gabriel Lippmann. C'est vrai qu'il a une vie romanesque. Qu'est-ce qui vous a le plus séduit dans son histoire? C'est sa personnalité, son côté, son petit grain, son côté original ou rebelle?
Le grain de la photographie. Il a peut-être des particularités, oui. Il a étudié à l'école seulement ce qu'il avait envie d'étudier. Et au début, d'ailleurs, c'était pas la physique, c'était plutôt l'histoire et le latin qui l'intéressaient. Et puis, c'est un enseignant qui l'a amené à la physique. Et finalement, c'est ce qui a déterminé la suite de sa carrière. Mais au fond, je ne sais pas si c'est réellement quelque chose de très étonnant. Souvent, les savants qui vont aller très loin dans un domaine et qui vont apporter quelque chose de vraiment novateur ont l'habitude de penser en dehors du cadre et ont leur petite particularité. Certainement que ça va ensemble. Ce qui m'a intéressé chez lui, c'est peut-être le fait qu'il arrive dans un domaine grand public, celui de la photographie, avec son bagage de physicien, et qu'il accepte de s'intéresser à ce domaine qui est grand public, justement. Et puis, ce qui m'a intéressé aussi, c'est en fait, d'abord, avant l'homme, la lumière, la couleur, qui sont des beaux concepts à mettre dans un roman. Et le défi d'aller expliquer des concepts d'optique ondulatoire dans un roman.
Oui.
Et puis pour ça, utiliser un personnage qui est aveugle, en fait. Et du coup, pour lui, la lumière, la couleur, c'est déjà quelque chose qui nécessite peut-être certaines explications.
Et il y a une fausse piste dans le titre du roman. Moi, personnellement, je suis très très pointu en histoire. Le Dagobert optique, je pensais tout de suite à Dagobert, le roi qui a mis sa culotte à l'envers, il n'en est rien. Là, le Dagobert, c'est une plaque de verre, en fait.
C'est en fait un jeu de mots. Les personnages qui sont des personnages aujourd'hui qui vont se retrouver avec cet objet entre les mains. Alors c'est une photographie, mais elle a l'air ancienne, mais elle a l'air en même temps nouvelle parce que des photos en couleur sur une plaque de verre, on ne connaît pas bien. Et ils vont se tromper. Au début, ils vont se dire, mais qu'est-ce que c'est qu'une photo ancienne? Ah, au début, ça s'appelait des daguerréotypes. Ouais. Et c'est le jeu de mots. Quelqu'un va mal comprendre. Il va comprendre
Dagobert optique.
Et Et c'est bien pratique parce que parler à toutes les pages de photographie interférentielle de Lippmann,
c'est trop long.
Pas facile pour le lecteur, c'est un peu lourd. Et du coup, à partir du moment où ça devient un Dagobert, c'est un peu comme si c'était un truc, ça devient beaucoup plus accessible et déjà le lecteur peut s'approprier.
Mais j'avais une question, Isabelle Bergouin, on est dans un siècle d'invention. La photographie avait déjà été inventée, je parlais de Niepce et je parlais des frères Lumière. Lui, il apporte un nouveau procédé, mais ça continue à avancer. Qu'est-ce qu'il a emprunté aux autres? Qu'est-ce qu'il a apporté de particulier qui justifia qu'il reçoive le prix Nobel?
Alors, effectivement, il y avait déjà eu des tentatives, vous en avez parlé tout à l'heure, puisque il y avait eu Becquerel qui lui-même déjà s'inspirait de travaux d'Herschel, où effectivement, on ne sait pas exactement quelle était la théorie sous-jacente à ce qu'ils ont fait. Ils ont utilisé une certaine capacité des particules d'argent à reproduire le spectre de la lumière, mais pas entièrement, et puis effectivement, ça n'était pas fixé, on perdait tout de suite ces couleurs, on ne pouvait pas les conserver. Il y a eu Monsieur Ducos du Haut-Rhin qui lui enregistrait trois images colorées différentes qui superposaient. Donc il y a eu pas mal de tentatives. Et puis Gabriel Lippmann, lui, il arrive vraiment avec quelque chose de différent, qui est les connaissances de pointe de l'époque sur la nature de la lumière. Donc il sait que c'est une onde électromagnétique, puisqu'à la fin du 19e siècle, on a à peu près assemblé tous les éléments sur cette théorie, sur cette nature de la lumière, avant la physique quantique. Et lui, il connaît les interférences, il sait ce qui va se passer quand on va placer un miroir de mercure derrière notre plaque et qu'on va provoquer donc un retour de la lumière sur elle-même. Il y aura des interférences qui vont être caractéristique de la longueur d'onde. Et la longueur d'onde, c'est bien la couleur, et quand on rééclaire de la même façon, les couleurs reviennent. Comme si la scène d'origine était toujours là. C'est la lumière avec ses mêmes propriétés d'origine qui est recréée par ce qu'on a enregistré dans la plaque. Donc moi, je dirais que il est bien sûr l'héritier de tout ce qui s'est passé avant lui et des savants Fresnel en France et Young en Angleterre qui, eux, ont découvert ce que c'était que la lumière, ce que c'était que ces interférences. Et du coup, après lui, il comprend ce qu'on peut en faire.
Et Isabelle Bergouin, on imagine toujours le chercheur seul dans son labo. En fait, il était entouré. Qui l'a aidé dans ses recherches et ses découvertes? C'est toujours un travail d'équipe. Avec un Nobel, on récompense un nom qui reste un peu dans l'histoire. Mais finalement, il y a plein de gens qui c'est une petite entreprise, non, j'imagine?
Il faut savoir que je fais un aparté, Gabriel Lippmann est le premier savant qui a accueilli Marie Curie dans son laboratoire tout au début de sa carrière de recherche. Donc il ne travaillait pas seul. Mais ensuite, quand il se met à travailler sur la photographie, il a eu des assistants, il a eu différentes personnes. Mais ce que j'ai fini par découvrir sous la forme d'une petite mention en me documentant pour ce roman, c'est que son épouse, en fait, qui s'appelait Laurence et qui a à peine laissé un prénom, c'était compliqué de remonter le fil, a travaillé avec lui, a vraiment fait des expériences avec lui pour mettre au point ses techniques photographiques. Et j'ai envie de dire, à cette époque, au 19e siècle, elle n'était pas seule. Madame Pasteur a travaillé beaucoup avec son mari, elle a élevé des vers à soie. Gay-Lussac, en chimie, au début du 19e siècle, a épousé une jeune femme qui l'a rencontrée parce qu'elle tenait une boutique et elle vivait des livres de chimie sous le comptoir.
De toute façon, derrière un grand savant, il y a toujours une femme.
Ah, oui.
Et puis, savez-vous, je sais que vous le savez, Isabelle Bergouin, à Luxembourg, il y a quand même un centre de recherche qui porte le nom de Gabriel Lippmann. Alors que
oui, tout à fait.
Chez nous, il n'y a pas grand-chose ici, de ce côté-ci de la frontière.
C'est vrai, le Luxembourg a voulu rendre hommage à ce grand scientifique qui était né au Luxembourg, effectivement. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que ce centre de recherche est un centre de recherche appliqué où on fait du transfert de technologie, de la recherche vers les entreprises. Et ça, je trouve que ça représente bien l'esprit dans lequel travaillait Gabriel Lippmann, parce qu'il est toujours passé de la théorie à l'application. Il a voulu, avec la photographie, passer de ce qu'il savait sur la lumière à mise à disposition pour le grand public, même si il a eu du mal ensuite à l'industrialiser, c'était vraiment difficile à fabriquer.
Mais
pour l'électricité,
oui, c'est
la même chose. Il est allé jusqu'à...
C'est l'application, en tout cas.
Il y a des applications, y compris en biologie et en médecine.
Mais bravo, en tout cas. Merci beaucoup, Isabelle Bergouin. Je rappelle le titre votre roman, Le Dagobert Optique, aux éditions Thierry Marchès. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Merci à vous.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, on évoque les plus étonnants Nobel français de l'histoire. Après Sartre et son Nobel de littérature, Gabriel Liebmann et son Nobel de physique, vous nous parlez maintenant, Mathieu, des lauréats français du dernier prix Nobel d'anatomie, ça existe ça ?
Écoutez, tout existe Stéphane, il suffit de chercher. C'est au détour d'un article du respectable journal Le Monde que l'idée de cette chronique m'est venue, article qui s'intitulait « C'est assez rare dans le monde, pizza et testicules au menu de l'édition 2019 de la Science improbable ». Car oui, il y a les Nobel, on en a parlé, très sérieux, très guindés, et puis il y a les Ig Nobel, organisés chaque année à Harvard, cérémonie loufoque, qui récompense les recherches les plus cocasses, mais sérieuses, du monde scientifique. Et en 2019, cocorico, l'hymne français a retenti. C'est une main sur le cœur, l'autre un peu plus bas, certainement en hommage à leurs travaux, que Roger Mieusset et Bourras Benghoudifa ont accueilli la nouvelle. Leurs travaux sur l'asymétrie testiculaire chez les postiers et les chauffeurs de bus venaient de remporter l'Ig Nobel d'anatomie, couronnement de 15 années de recherche pour lesquelles, et c'est toute l'ironie de la chose, on ne leur a jamais octroyé la moindre bourse. Alors oui, connaissant l'humour des uns et des autres autour de cette table, je me désolidarise par avance de toute remarque liée à la consonance rieuse du mot bourse, qui font partie de ces mots qui nous rendent bêtes, comme quand David taquine Olivier lorsqu'il se retrouve à l'urinoir.
Bourse molle, bourse molle.
Et pousse de répliquer bourse molle toi-même. Et ou quand Stéphane encore doit prononcer le mot slip dans un lancement.
Dans l'intimité des grandes ce monde et aujourd'hui carrément dans le slip d'un personnage célèbre.
Bref, tout ça ne nous entraîne pas vers le haut de gamme qui est pourtant le cahier des charges de ma chronique. Non messieurs, de grâce un peu de tenue car les bourses, ok les testicules sont un sujet sérieux, un sujet sensible au propre comme au figuré car tous les hommes le savent. Il ne faut jamais les toucher à cet endroit de leur anatomie sans les prévenir, à l'avance, sous peine d'une réaction sonore, notamment loin des codes habituels de la virilité, démonstration, tuc tuc tuc.
Bonjour.
Le testicule est donc ultra sensible, aucune étude n'est nécessaire pour le vérifier, on est dans l'empirique. En revanche, une autre question se pose, question qui méritait visiblement une étude. Y a-t-il, dans ces boules fièrement indissociables, ces siamois sous le cocotier, comme les appelait joliment Aimé Césaire, une différence de température entre le testicule droit et le testicule gauche?
On s'en fout?
Non, non, pas Roger Mieusset et Bourras Benghoudifa, Stéphane, qui ont eu justement le cran de lancer une étude comparative sur ce problème d'asymétrie testiculaire qui fait pouffer les ignorants comme nous, mais qui en fait a des implications médicales importantes, notamment sur la fertilité et le cancer. Et là, vous touchez du doigt le concept des Ig Nobel, divertir oui, mais en faisant réfléchir. Maintenant que vous avez compris que l'étude sur cette asymétrie n'est pas une blague, vous vous posez certainement la question technique. Comment évaluer avec précision la température de l'entrejambe des postiers? Est-ce que ça a été fait avec le même matos que le type qui nous attend chaque matin à l'entrée d'Europe 1 pour vérifier qu'on n'a pas de fièvre? Non. Nos chercheurs ont utilisé des thermomètres cutanés pour mesurer précisément la température des ornements, pour parler élégamment, de 30 individus, 8 successivement couchés sur le dos, debout, assis, jambes écartées puis croisées, nus puis habillés, 11 conducteurs de bus assis au volant et enfin 11 postiers qui, après 10 minutes de marche, ont passé 90 minutes debout à trier le courrier et certainement 15 de plus à décoller ensuite le thermomètre cutané, ce qui au passage explique qu'il y a eu tant de retard dans les Colissimo en 2007. C'était l'étude de Bourras et Roger, merci les gars. Résultat, dans tous les groupes, une très légère asymétrie de 0,03 degrés entre le testicule gauche et le droit. Selon vous, Stéphane, lequel des deux testicules est le plus chaud?
Le gauche.
Le gauche, c'est une bonne réponse, c'est le plus chaud, effectivement, et ce n'est pas une bonne nouvelle pour lui, pauvre petit testicule gauche, qui doit se dire... Je le vois comme ça, le testicule gauche. Car la chaleur, on l'a vu, est l'ennemi du testicule. Mais c'est là que l'anecdotique rejoint le sublime, car cette étude, vous l'avez noté, date de 2007. Or, qu'a fait Roger Mieusset depuis 2007? Il a créé le slip chauffant. L'étude dont nous rions a débouché sur l'invention d'une contraception masculine en tout point innovant, la contraception thermique. Comment ça marche? Les testicules sont placés habituellement en dehors du corps, dans le scrotum, à une température d'environ 35 degrés. L'élévation de leur température de seulement 2 degrés permet de freiner largement la production de spermatozoïdes au point de ne plus être fertile. C'est ce procédé qui est utilisé avec le slip chauffant. Le slip chauffant va simplement plaquer les testicules contre le corps humain à environ 37 degrés pour obtenir cette montée en température qui permettra la contraception. Qui a dit que le génie français était mort? Côté pratique, le slip chauffant est créé sur la base d'un slip classique. Le confort du coton molletonné, le maintien de l'élastane, à la différence qu'une ouverture est créée à l'avant pour le passage du pénis. L'utilisateur va ensuite tirer doucement sur la peau du scrotum pour la faire passer à travers l'ouverture. Attention Stéphane!
Bonjour.
Voilà, le tour est joué puisque par manque de place, les testicules vont alors remonter dans la poche inguinale située dans la région de l'aine où ils entreront en phase de réchauffement. À noter que le slip chauffant doit être porté à raison de 15 heures par jour environ pendant 2 à 4 mois pour être efficace. Quelques petits effets secondaires ont été notés, notamment par Clémentine Portier-Kaltenbach qui s'était plaint au médecin de son mari.
Mon mari a les couilles bleu marine.
C'est que ça marche, madame, c'est que ça marche. Bref, encore bravo à Roger Ebouras, glorieux pionnier de l'asymétrie testiculaire. Reste une question sur laquelle la science bute encore en 2020. Question posée par le regretté Philippe Noiret.
La grande question.
Quand on se gratte les couilles, à partir de quel moment est-ce qu'on le fait parce que ça vous démange ou parce que ça vous fait plaisir?
Je vous laisse y réfléchir, je ramasse les copies dans 2 heures.
Et c'était à 99% vrai, Mathieu.
Oui, c'était juste Aimé Césaire n'a pas la phrase d'Aimé Césaire n'était pas tout à fait juste. Elle a été un peu détournée.
Elle était crédible.
Elle
pourtant,
était crédible.
En tout cas,
elle est 6 mois sous le cocotier. Oui. Césaire. Non, je ne crois pas.
C'est Francky Vincent.
Très bien. Merci beaucoup,
on
Mathieu.
On voit qu'il y en a qui ont des références dans cette émission. Ça fait plaisir.
Europe 1, historiquement vôtre.
Nous entrons, Mathieu, dans la dernière demi-heure d'Historiquement Vôtre. L'heure de dire adieu à Jean-Paul Sartre, à Gabriel Lippmann et à vos testicules.
Mes testicules ?
Par là, j'entends les recherches sur les testicules de postier de vos deux personnages du jour.
J'ai eu peur.
L'heure est venue de nous servir de l'histoire pour mieux comprendre le monde qui nous entoure.
Et comment mieux comprendre le monde que par la nourriture, Stéphane ? Les bons petits plats et les recettes de ceux-ci.
Et le poulet de Monsieur Gaston Gérard, ou l'invention improbable d'une recette maladroite.
Mais excusez-moi, mais cette recette, personne ne l'a, je ne l'ai jamais vue sur une carte de restaurant. Donc
bien, vous avez tort, parce que c'est un grand classique de la cuisine bourguignonne.
Bon. Le mot de la fin reviendra évidemment à notre maître à tous, Stéphane Bern. Ce n'est pas ma tasse de thé, une expression que j'emploie souvent sans savoir d'où elle vient.
Oui, elle vient de « It's not my cup of tea ».
Ah, c'est une traduction littérale.
Oui, quand on l'utilise, mais je vous raconterai d'où ça vient. En vous disant ça, je ne vous ai pas tout dit.
J'espère bien. Et tout de suite, on part aux origines d'une invention, fort utile quand on doit se débarrasser d'un ennemi, par exemple, la dynamite.
La dynamite, tout à fait.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
C'est un fouineur qui nous a rejoint en studio, un fouineur de l'histoire, David Castello-Lopez. Vous dépoussiérez l'histoire et vous trouvez pour nous l'origine des inventions. Aujourd'hui, une invention utile et une invention surtout qui correspond à notre thème du jour, puisque c'est Alfred Nobel.
Tout à fait, c'est la dynamite. La dynamite, ça fait partie des choses que personne n'a vraiment vu dans sa vie, enfin très peu de gens, mais tout le monde connaît très bien, en particulier parce que les dessins animés américains en sont tout fourrés. Vous voyez bien ces espèces de tubes qui ressemblent à de gros pétards et que les personnages, ils attachent en bouquet avec une petite horloge au-dessus pour faire exploser leurs amis. C'est assez sympa, hein. Et c'est d'autant plus sympa que les amis en question dans les dessins animés ne meurent jamais, même quand la dynamite leur a explosé au visage. Alors que dans la vraie vie, vous faites ça, ça fait une sorte de tartare. En plus, un tartare nul parce que c'est tout éparpillé, faut aller prendre les petits morceaux les uns à côté des autres, c'est nul à chier. Mais alors, d'où elle vient, cette dynamite, et qu'est-ce que c'est? Je vais essayer d'expliquer. Alors d'abord, les explosifs, pour être de bons explosifs, ils doivent avoir deux qualités. La première, on s'en doute, c'est d'exploser le plus fort possible. Mais la seconde, c'est d'exploser quand on leur demande d'exploser.
Ah oui, d'être stable.
Et non pas n'importe quand, par exemple quand on les a dans la main. Et jusqu'au début du 19e siècle, le seul explosif qu'on maîtrisait de ce point de vue-là, c'était la poudre à canon, un mélange de salpêtre, de soufre et de charbon de bois, qui faisait assez bien le job, puisqu'on l'a utilisé pendant 800 ans. Et puis au début du 19e siècle, il y a un chimiste italien qui s'appelle Ascanio Sobrero et qui a eu une idée. Alors nous, le dimanche, on se dit tiens, si je me faisais une soirée Netflix, et ben Ascanio à la place s'est dit tiens, si je foutais de la glycérine dans de l'acide nitrique. Voilà, c'était son truc à lui. Et c'était pas une si mauvaise idée parce que ça a donné la nitroglycérine. Et je pense que déjà nitroglycérine, ça vous dit quelque chose.
Mais ça, c'est pas stable. Ça peut si jamais vous transportez un verre de nitroglycérine, c'est à vos risques et périls.
C'est un explosif hyper puissant. C'est 1000 fois plus puissant que la poudre noire. Donc ça, c'est cool. Mais vous vous souvenez que pour qu'un explosif soit vraiment bien, suffit pas qu'il soit puissant. Faut aussi qu'il soit stable. Et la nitroglycérine, c'est pas stable du tout. En gros, si vous la secouez un peu trop fort, vous dites, eh bien, ça vous explose à la gueule. Et ça a d'ailleurs explosé un petit peu à la gueule d'Ascanio, qui a eu une cicatrice sur le visage jusqu'au restant de ses jours. Alors Ascanio, il a grillé quand même qu'il avait découvert un truc important, mais ça le terrorisait au point qu'il a pas révélé son invention pendant un an. Mais au bout d'un moment, bon, il l'a quand même dit. Et quelques années plus tard, la nitroglycérine, qui se présente sous la forme d'un liquide, hein, elle est arrivée jusqu'à un monsieur très connu, hein, qui s'appelle Alfred Nobel. Alfred Nobel, c'était un chimiste et sa famille, elle travaillait dans l'armement et il s'est dit, il y a un truc à faire avec la nitroglycérine. Pour pouvoir faire ses recherches, il a créé une usine de fabrication de nitroglycérine. Mais bon, vous commencez à la connaître, cette chère petite Nitro, hein. Elle est instable, hein, comme une collégienne frustrée.
Et mais ne réglez pas vos comptes, c'est honteux, David. Constance en a déjà pris pour son grade l'autre jour.
Et en 1867, une des usines d'Alfred Nobel a explosé, en tuant au passage son petit frère, Émile. Mais Alfred, il était en mode rien à foutre. Et un jour, à force de faire des expériences, il a découvert que s'il mélangeait de la nitroglycérine avec de la terre de diatomée, qui est une sorte de poudre faite de petits morceaux d'algues fossilisées, eh bien, quand il faisait ça, non seulement la nitroglycérine devenait une poudre, mais en plus, elle devenait stable et donc transportable. Et donc, Alfred Nobel, il venait d'inventer l'explosif moderne, à la fois puissant et gérable. Il l'a appelé dynamite à cause du mot grec dynamis, qui veut dire puissance. Il a déposé des brevets. Et là, ça a fait un carton total, en particulier aux États-Unis, où la dynamite, en fait, a été utilisée, en gros, pour construire le pays, dégager les passages pour les chemins de fer, construire les barrages, etc. Et bien sûr aussi tuer des gens, des fois. Alfred Nobel, il est devenu immensément riche, mais il y avait des gens qui trouvaient que c'était un peu un bâtard d'avoir inventé la dynamite. Et il y a une histoire qui n'est pas complètement confirmée, mais qui n'est pas infirmée non plus.
On aime bien ça dans Historiquement Vôtre.
Voilà. Et cette histoire a dit la chose suivante, c'est en 1888, il y a un autre frère d'Alfred Nobel qui s'appelle Ludwig, qui est mort à Paris. Et il y a un journal français qui a cru que c'était Alfred qui était mort et qui a publié donc la nécrologie d'Alfred. Une nécrologie qui le défonçait et Alfred l'a lu. Cette nécrologie disait que Alfred c'était un marchand de mort qui était devenu riche en développant des nouvelles façons de mutiler et de tuer. Enfin voilà, ça le défonçait complètement. Et donc Alfred il aurait lu ça et il serait dit « Oh non, mais c'est trop horrible si je passe pour un connard à la postérité, j'ai pas envie. »
C'est ça qui lui aurait donné l'idée.
Et ce serait en partie ce petit choc, cette petite crise de conscience qui lui aurait donné envie de se racheter. Ce qui est sûr, c'est qu'en 1895, il a changé son testament pour léguer presque toute sa fortune à une fondation qui porte son nom et qui était censée donner un prix aux gens qui créent des choses bien pour l'humanité. Et c'est bien sûr le prix Nobel qui a été attribué pour la première fois en 1901.
Magnifique. Et demain, l'histoire merveilleuse et rieuse de la mine antipersonnelle. Avec David, toujours un moment convivial.
Et vous savez, il y a une autre anecdote que j'aime beaucoup avec Alfred Nobel. C'est que, on raconte que sa femme le trompait avec un mathématicien. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de prix Nobel de mathématiques.
Ça, c'est drôle.
Il y a la médaille Field de mathématiques, mais c'est pas un prix Nobel. Voilà, enfin, on ne saura jamais si c'était vrai.
Mais on aime bien cette histoire.
Moi,
aussi.
Moi, je trouve dommage qu'on ne retienne que le côté négatif. S'il n'y avait pas eu la dynamite, nos paysages, effectivement, non, tout ça n'existe pas.
Il y aurait des forêts.
Il aurait pu continuer à casser tout ça à la main avec. Mais oui, il a fait économiser des millions d'heures de travaux manuels.
En revanche, nos paysages existeraient sous une forme plus pure. Oui,
plus
peut-être.
Pure. Mais ça, visiblement, Olivier Pouls n'en a cure, si vous voulez. Merci, David. Bah, écoutez, on retrouve Les Origines en podcast, comme d'habitude, et sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr.
Moi, j'ai faim maintenant.
Vous avez faim, mais oui, mais moi je vous le dis, j'ai une minute pour vous dire que la chronique d'Olivier Pouls sur le poulet Gaston Gérard, ça va être de la dynamite.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Il attendait son heure tapis dans la pénombre, mi-homme, mi-aspirateur à moule.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est Olivier Pouls, qui nous propose aujourd'hui une recette qui fleure bon le détox, le poulet Gaston Gérard. Rien que dans le nom, on sent les calories.
Et vous ne savez pas ce que c'est ?
Ah ben non, moi j'ai jamais vu de... Vous avez vu
mais
les...
Mais qui est d'abord Gaston Gérard ?
Ben je vais vous le dire.
Ah bah oui.
Non, c'est vrai que c'est un plat qu'on ne voit plus énormément à la carte des restaurants, sauf si vous allez en Bourgogne, parce que c'est un des grands plats traditionnels de la cuisine bourguignonne, région dans laquelle ce plat est né. Alors, qui était Gaston Gérard? Ben, Gaston Gérard, il a été pendant de nombreuses années le maire de Dijon. Et en dehors d'être le maire de Dijon, c'était aussi un sacré cuisinier, un bon coup de fourchette et un amateur de bonne chère. Et un jour de 1930, il invite à manger chez lui, à dîner chez lui, le célèbre Kurnonski, critique gastronomique très célèbre de l'époque, surnommé le prince des gastronomes d'ailleurs. Et autant vous dire que quand on reçoit Kurnonski à manger, on a plutôt intérêt à pas se louper. Et il confie le repas à sa femme, très bonne cuisinière aussi, et on peut penser que peut-être sous le coup du stress, de la pression, alors qu'elle était en train de cuisiner dans une cocotte une belle volaille locale, patatras, le drame, elle fait dégringoler un pot de paprika. Dans le poulet, pouf. À catastrophe, pas le temps d'aller rechercher un poulet, de relancer la cuisson. Donc elle se dit, je vais essayer de planquer le truc. Donc elle verse dedans du vin blanc, elle met de la crème, elle met du comté râpé, elle rajoute tout ça par-dessus, hop, Elle continue la cuisson, cure-nom ce qui arrive, l'apéro, sympa, il se détend, on passe à table et on lui sert ce plat. Il adore, il est complètement comblé. Et pour rendre hommage à son hôte, il décide d'en parler et de le baptiser le poulet Gaston Gérard. Et aujourd'hui, quand vous allez encore en Bourgogne, dans un certain nombre de restaurants de Dijon ou de Beaune, vous pouvez trouver ce poulet Gaston Gérard.
Mais c'est le poulet de la femme de Gaston Gérard.
Oui, en plus, on est dans le sexisme, le milieu. C'est magnifique, c'est-à-dire que... Bah,
et alors, surtout que sa femme, vous savez comment elle s'appelait? Elle s'appelait Reine Geneviève Bourgogne. Ça s'invente pas, quand même.
Ça aurait été vachement mieux. Ça aurait été beaucoup mieux.
Plutôt que le poulet Gaston Gérard.
Moi, je propose qu'on débaptise le poulet Gaston Gérard.
Vous avez le pouvoir, vous êtes le patrimoine. On peut débaptiser le truc officiellement.
On peut le faire là, décider sur Europe 1.
On décide, et tous ces restaurateurs doivent changer la carte.
Reine Bourgogne.
Reine Bourgogne, c'est quand même pas mal. Ça a de la gueule. Alors, je vous donne la recette, quand même.
Ça a l'air simple, en plus. J'ai l'impression que même moi, je peux le faire.
C'est très simple. Ça fait partie de ces plats mijoté où franchement il y a rien à faire quoi, il y a juste à attendre. Donc une belle volaille de Bresse évidemment coupée en morceaux par votre volailler, il vous faut 50 centilitres de vin blanc, une cuillère à soupe de paprika, pas obligé de laisser dégringoler tout le pot dedans hein, une cuillère à soupe ça suffira bien, 150 grammes de comté râpé, deux cuillères à soupe de moutarde de Bourgogne, moutarde de Dijon et 25 centilitres de crème. Alors l'idée c'est tout simplement de faire bien dorer les morceaux de poulet dans un peu de matière grasse. On va ensuite déglacer avec le vin blanc, ce qui va permettre de récupérer les sucs. On laisse mijoter tout ça pendant une quarantaine de minutes, le temps que le poulet soit cuit. On sort les morceaux, puis on ajoute la moutarde, le paprika, le comté, la crème. On met tout ça dans un plat à gratin. On verse la préparation, la sauce par-dessus. Tac, on fait gratiner 10 minutes au four. Et puis on sert ça avec une purée de pommes de terre, par exemple.
Si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, on peut retrouver les recettes d'Olivier Pouls sur le site d'Europe1.fr.
Oui, et cette recette, en tout cas, moi, personnellement, c'est ma tasse de thé. Mais d'où vient cette expression, Stéphane? Bon, c'est ma tasse de thé.
Bon, c'est plutôt mon verre de vin. Mais...
Vous, c'est votre verre de vin? Vous, c'est votre verre de quoi?
C'est mon pêcheur de nappe.
Oh, il le dit tellement bien, c'est le mot qu'on ne peut pas prononcer, nous, français.
Oui, on ne peut pas. Mais moi, c'est la tasse de thé.
La tasse de thé, parce que c'est votre côté british. Mmh. Your cup of tea.
16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
En temps normal, c'est-à-dire quand il n'a pas bu, c'est-à-dire donc hors confinement, Stéphane Bern a une maîtrise totale des expressions françaises.
Vous savez, il n'y a que le ridicule qui tue.
Bon, là, c'est encore le confinement, mais très vite, il va se reprendre. En tout cas, j'espère, car Stéphane, c'est à vous que revient le mot de la fin.
Oui, ce n'est pas ma tasse de thé. Voilà une belle expression à décortiquer, parce que historiquement, vôtre est l'émission idéale pour tea time.
Ah oui, avec quelques scones, c'est ça qui nous manque.
Ce n'est pas, et des muffins, ce n'est pas ma tasse de thé, c'est une façon d'exprimer, au fond, ce qu'on aime moins, voire ce qu'on n'aime pas du tout. Mais alors, d'où vient cette expression et cette formule?
Vous me connaissez, j'aime prendre des risques, et puis surtout que vous ne m'avez pas mis sur la piste tout à l'heure, je dirais que ça vient d'Angleterre.
Ah, bien joué, Sherlock. En effet, quand on dit ce n'est pas ma tasse de thé, on utilise une expression qui a été purement et simplement traduite de l'anglais « It's not my cup of tea ».
Écoutons simplement David nous le dire une seule fois en parfait anglais.
« It's not my cup of tea ».
Oh, l'ordure, il se fout de nous, en plus il nous traîne dans la boue.
Il nous nargue,
c'est dégueulasse.
Notez que la forme négative est arrivée en 1920. Avant, n'existait comme expression que la forme positive « It's my cup of tea ». Voilà. Le tea time, il faut dire, est sacré en Angleterre. 17h, c'est le rituel. Les Britanniques boivent en moyenne 3 tasses par jour. 2,3 kg de thé par an. Ah oui. C'est là où nous atteignons péniblement les 230 grammes. Mais attention.
On se rattrape sur le vin.
Oui, c'est notre force.
Mais écoutez, pour le moment, nous parlons du thé. Pardon, Olivier.
Poul, il a du mal à parler du thé pendant trop longtemps, Poul. Il se sent pas bien après.
Cela dit, vous savez, les ascenseurs montent et descendent. Ce que je veux dire, c'est que les Anglais boivent 20% de thé en moins chaque année, alors que nous, nous en buvons 10% en plus chaque année. On va finir pour arriver à leur niveau. C'est surtout que les Anglais rajoutent des biscuits. Et là, la ligne en prend un sacré coup. Ce qui est amusant, c'est que si nous, froggies, nous utilisons cette expression, ce n'est pas ma tasse de thé. Les Allemands préfèrent dire « Das ist nicht mein Bier ». Ce n'est pas ma bière. Oui.
Ouais, je m'y retrouve plus.
C'est fou comme on est tous dans nos clichés.
En Espagne, on dit « No es santo de mi devoción », ce qui n'est pas un saint pour lequel j'ai de la dévotion. Quant au Brésil, on préféra « Não é minha praia », ce n'est pas ma plage.
Non, pas minha praia, oui. C'est brésilien. Au Portugal, on ne dit pas « Não é minha praia ». Mais je ne sais pas ce qu'on dit à la place.
Une question me vient qui n'a rien à voir. Mais vous, est-ce que dans votre jeunesse, vous êtes fait passer pour un Brésilien pour essayer de pécho?
Non, eu posso fazer o sotaque do Brasil, mas não funciona muito bem.
Il dit qu'il a essayé d'avoir l'accent brésilien, mais que ça n'a pas très bien marché.
Oh ben avec moi, ça aurait marché. Bon, ça n'aurait pas servi à grand chose.
Oui, mais je suis pas sûr que vous étiez sensible.
Oui, malheureusement, je comprends le portugais, mais je le parle très mal. j'ai appris dans une autre vie, oui.
C'est fou, ça.
C'est fou.
Attendez, Stéphane, ça intéresse quand même les Français. À quel moment de votre vie vous avez appris le portugais?
Vous voulez que je vous dise
vraiment? Oui, je veux vraiment.
J'ai écrit une biographie de Última Reina de Portugal.
La Última Reina.
Amélia. La reine Amélia.
Pour l'occasion, vous
pour êtes... lire son journal intime,
non.
Je me suis pris des cours de portugais.
Ah oui,
trois fois par semaine.
Mais ça, ça en dit long sur votre côté bosseur, Stéphane.
Mais oui, génial.
Mais parce que je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens à votre place qui auraient pris un traducteur.
Oui. Non, moi, j'ai aimé ça. Terminons avec deux proverbes sur le thé. Un proverbe anglais. Le chemin du paradis passe par une théière. Ouais. C'est très beau. Et un proverbe japonais. La femme et la bouilloire à thé se bonifient toujours avec l'âge. Et ça, ça m'énerve parce que c'est pas très féministe.
Ah non, c'est pas féministe du tout, non. C'est...
Surtout quand votre femme, on a la forme de ma théière.
On finit toujours sur une touche comme ça de modernité.
C'est horrible.
Bravo. Quel merveilleux après-midi nous avons passé une fois de plus autour de nos étonnants Nobel de l'histoire. J'ai quand même appris l'existence de Gabriel Lippmann, l'inventeur de la photographie couleur. Bon, je crois qu'autour de cette table, certains avaient de pires lacunes encore.
Je ne savais pas qui était Stéphane Bern.
David, on vous retrouve peut-être demain, peut-être. Vous, Olivier, vous connaissez Stéphane?
Oui, bien sûr.
On vous retrouve demain.
J'en connais beaucoup.
Stéphane, quel Nobel vous a le plus étonné aujourd'hui?
Moi, j'ai beaucoup aimé vos Ig Nobel, mais moi, j'ai une passion pour dans la famille Nobel pour Chantal.
Ah, Chantal Nobel qu'on n'a pas traité. Et j'ai senti un peu un regret de votre côté. Un mot du programme de demain, Stéphane?
Oui, comme disait la chanson, des filles au masculin. On réunit trois dames, trois personnages de l'histoire qui répondent aux prénoms de Jean, Georges et Chris. L'une a fait le tour du monde, l'autre a écrit une œuvre remarquable et la dernière chante et danse.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.